Radio Grenouille accueille Attaque Marseille pour une émission mensuelle proposée par Attaque, justement, qui vous donne rendez-vous tous les troisièmes dimanches du mois de 11h à midi. C'est la première aujourd'hui, dimanche 15 avril, avec pour thématique l'élément le plus essentiel à la vie, il s'agit de l'eau. Alors cette émission, j'ai oublié de vous le dire, c'est le Petit Alter qui fait référence à une parution d'Attaque Marseille. Et donc, revenons au sujet du jour, c'est l'eau. Et pour décliner ce sujet, nous avons autour de la table Joël Martin de la commission environnement d'Attaque Marseille, Jacques Masson, Pierre Tichanet et Louis Rousseau d'Attaque Marseille. Nous aurons également des invités, mais ça, nous verrons ça plus tard. Alors pour commencer, Pierre Tichanet, je vous demande de présenter un petit peu à nos auditeurs ce qu'est Attaque Marseille.
Alors Attaque est une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Elle est indépendante de tout parti politique. Elle vise à critiquer le monde néolibéral qui, de façon simplifiée, tend à transformer l'ensemble des activités humaines en marchandises qui sont vendues sur des marchés à des personnes qui sont solvables. Et ces marchés biens et ces services sont produits par des entreprises qui ont une logique de bénéfice, de profit pour leurs actionnaires. Attaque donc souhaite un autre monde, souhaite élaborer un autre monde, d'où le nom d'alter mondialiste. Et cet autre monde serait une économie solidaire, écologique et démocratique, où l'économie serait au service de l'homme.
Merci Pierre. Alors pour commencer, il est important sur la thématique du jour qui est l'eau, de faire une photographie de la situation de l'eau. Donc qu'en est-il dans le monde? Il faut décrypter les données qui nous ont été apportées et annoncées. Vous verrez que des solutions alternatives existent, nous verrons ça tout au long de l'émission. Et pour ce faire, je vais demander à Joël Martin de nous en dire plus. Vous faites partie de la commission environnement. Alors qu'en est-il de la situation de l'eau dans le monde?
D'abord, nous, on a l'habitude d'avoir l'eau au robinet, donc ça nous semble quelque chose de naturel. Il faut quand même savoir qu'un être humain sur quatre dans le monde n'a pas l'eau potable, hein, 1,5 milliard de personnes. Hein, et ça veut dire donc toutes les conséquences sur la santé. Tous les 5 ans, l'équivalent de la population de la France meurt dans le monde de maladies liées à l'absence d'eau potable. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont heureux, hein, parce que quand on est obligé de faire par exemple 6 km par jour pour aller chercher de l'eau comme une femme africaine, voilà, hein, c'est un gros problème. Or, il se trouve que simplement, si on consacrait 1% des dépenses militaires mondiales pendant 15 ans à la question de l'eau potable, on pourrait arriver à ce que tout le monde ait l'eau potable. Donc, pour nous, la question de l'eau devrait vraiment être reconnue comme un droit. Alors, quand on parle des droits de l'homme, il faut savoir que dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas seulement le droit de s'exprimer, etc. Les débuts de la Déclaration des droits de l'homme, hein, vers les articles 20, etc. Hein, il y a des droits tels que droit à la santé et l'eau fait partie. Enfin, l'eau n'est pas écrite comme droit dans les grands textes mondiaux, mais on ne peut pas avoir de santé si on n'a pas d'eau. Hein, et à quoi sert d'avoir le droit de vote si on n'a pas l'eau potable? Voilà, c'est un peu déjà ça, la réalité brutale de la question de l'eau. Et puis alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut toujours se méfier d'un discours qu'on entend un peu partout, un discours quasiment officiel, qui est de dire « attention, on va manquer d'eau », alors que non, il y a de l'eau. Même au Sahara, il y a des nappes fossiles, il y a de l'eau un peu partout. Le problème, c'est que cette eau est polluée et qu'elle est surexploitée. Et donc la question n'est pas « on va manquer d'eau », la question c'est « comment est-ce qu'on utilise l'eau ?» En se disant bien que ce n'est pas simplement un bien qu'on utilise, qu'on peut prendre dans le sol, et puis voilà, comme, je sais pas, comme le minerai de fer par exemple. Hein. C'est un circuit, l'eau, c'est un milieu vital, c'est quelque chose que nous partageons avec toutes les espèces vivantes, hein. C'est pas seulement pour les êtres humains. Et il faut d'abord partir de cela. Hein. Alors que les grandes entreprises ont plutôt tendance à nous dire « ne vous inquiétez pas, il y a des solutions techniques. Si l'eau est polluée, on peut la dépolluer. Si on a besoin d'eau, on peut dessaler de l'eau. » Bon, tout ça, ça coûte très cher. Ça bouffe de l'énergie, etc. Alors que nous serions plutôt pour dire « faisons d'abord attention au cycle naturel de l'eau. Comment les nappes phréatiques se réapprovisionnent, comment les zones humides restent vivables pour les plantes et les animaux. » Voilà, d'abord ça.
Mais alors, vous parlez des grandes entreprises, déjà. Quel est leur rôle dans l'exploitation de l'eau, dans le débit de l'eau?
À l'échelle mondiale, il faut voir quand même que une grande partie, alors je ne sais pas combien pourcent, de l'eau reste dans le domaine public, hein, c'est-à-dire est gérée par des communautés, par les collectivités locales. Hein. Cela dit, c'est vrai qu'en France, on a une particularité, c'est-à-dire que quelque chose comme à peu près 80% des usagers de l'eau sont en fait servis par des entreprises qui se résument à assez peu. Hein. C'est Veolia, anciennement Vivendi, c'est Suez, et puis c'est SAUR, S-A-U-R, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, c'est Bouygues, hein, parce qu'il faut voir que c'est toujours des entreprises qui, par ailleurs, sont importantes dans les médias et sont un petit peu les fleurons du capitalisme français. Hein. Les grands de l'eau à l'échelle mondiale, c'est les mêmes.
D'accord. Alors justement, quels sont régionalement, on peut donner des exemples régionaux. Et là, je vais interroger Jacques Masson, qui pourra nous dire exactement comment ça se passe dans votre région pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs.
Bien, alors d'abord, la situation de la région, elle est un peu semblable au reste du pays en ce qui concerne la qualité de l'eau. Il faut bien voir que les derniers rapports montrent que la qualité de l'eau dans les rivières en France se dégrade, bien qu'on nous ait dit depuis des années qu'il y avait des efforts d'amélioration de la qualité. Alors dans notre région, on retrouve ces caractéristiques. Il faut voir que notre région est marquée, du point de vue hydrologique, par une rivière qui est pratiquement la rivière de la Provence, qui descend des Hautes-Alpes, là, de vers Briançon, du Mont-Genèvre, et qui va jusqu'à la mer. C'est la Durance. Et la Durance a été fortement aménagée, c'est-à-dire il y a une utilisation hydroélectrique et une utilisation agricole. Il faut quand même savoir que chaque été, eh bien, l'agriculture provençale, dans ce qu'on appelle la basse Durance, c'est-à-dire vers le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, consomme plus de 100 mètres cubes par seconde d'eau en prenant la Durance. Alors la conséquence, évidemment, que dans le lit naturel du cours d'eau, eh bien, il y a beaucoup moins d'eau. Il y a beaucoup moins d'eau, eh bien la densité des pollutions, puisqu'il y a des champs, il y a des pesticides, la densité de la pollution est beaucoup plus importante. Et évidemment, c'est un phénomène négatif. Alors on a un aménagement qui est très positif pour l'électricité, qui est très positif pour l'agriculture, notamment l'agriculture intensive, mais qui est assez négatif pour l'environnement.
Bah, par exemple, quelles sont les techniques d'irrigation qui sont néfastes pour l'environnement?
Je ne sais pas si on peut dire néfastes, mais ce qui est certain, c'est que nous avons dans notre région deux techniques d'irrigation qui sont assez différentes. Il y a la technique traditionnelle, qui est la technique d'irrigation gravitaire, qu'on a notamment en Basse-Durance, qu'on a dans la Creux, et qui est fortement consommatrice d'eau. Et il y a des techniques plus modernes.
Mais qu'est-ce que c'est concrètement, ça? Parce que pour le gravitaire,
c'est-à-dire on met l'eau dans un canal et ça coule. Et ça va dans les champs, un peu sans forcément un rapport étroit entre les besoins. Et puis, il y a des techniques plus récentes qui sont notamment développées par... Alors, c'est là aussi une spécificité régionale qu'il faut souligner. Des techniques qui ont été développées dans notre région, principalement par la Société du Canal de Provence, et qui sont des techniques plus économes en consommation d'eau, soit des techniques d'irrigation par aspersion, soit même, évidemment, des techniques d'irrigation goutte à goutte. Alors, je dis qu'on a dans notre région une spécificité qui est la Société du Canal de Provence. C'est vrai que Joël a dit que la maîtrise de la distribution d'eau était aux mains de grands groupes financiers. Mais dans notre région, eh bien, appuyé sur les réserves qui sont constituées dans les barrages du Verdon et de la Durance, la Société du Canal de Provence dispose de réserves qu'elle utilise pour alimenter le Var et la région marseillaise.
Mais alors, quels sont les points? Par exemple, il y a une exploitation trop intensive de l'eau pour l'arrosage, pour l'agriculture. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, de la situation? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier?
Moi, je pense qu'on dire qu'il y a une utilisation trop intensive, j'insiste, il y a quand même eu ce mode d'irrigation, ces réserves en eau, quand même permis un développement agricole et donc économique important. Et je crois qu'on ne peut pas considérer comme si ce n'était pas important. Par contre, il y a des investissements qui devraient être nécessaires pour faire des économies d'eau, c'est-à-dire en fait avoir des techniques d'irrigation moins coûteuses en eau.
Alors, par exemple, quelles sont ces techniques-là?
Là, je l'ai dit, les techniques qui sont développées par le canal Provence, qui sont effectivement, au lieu d'envoyer l'eau, elle est dans le canal et elle va dans d'autres canaux, et ça a une ramification de canaux. Et à la fin, évidemment, il y a peut-être trop d'eau pour l'agriculture. Eh bien, si on transporte l'eau sous pression, on mesure de manière beaucoup plus précise l'eau en fonction des besoins.
D'accord. Alors, on va pas tarder à avoir Monsieur Olivari. Et Joël, pouvez-vous nous situer qui est Monsieur Olivari?
Oui, Georges Olivari, c'est le directeur de la maison régionale de l'eau à Barjols. Hein. Et donc, il est biologiste. Et pour lui, justement, la question de l'eau, c'est d'abord la question des espèces vivantes qui y habitent. Hein, et c'est pour ça qu'on aime bien, l'écouter en parler.
D'accord. Est-ce que nous avons Georges Olivari en ligne? C'est parti. Georges Olivari? Allô? Allô?
Allô?
Allô, Georges Olivari, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct sur le Petit Alter sur Radio Grenouille 88.8. J'en profite pour saluer nos amis de Grenouille. Et je pense que vous connaissez Joël Martine de la commission environnement d'Attaque Marseille.
Tout à fait, on se connaît depuis longtemps même.
Oui, bonsoir.
Salut.
Ben voilà, ben on aimerait que tu nous dises un peu ce que tu penses de, disons, comment, que deviennent les milieux aquatiques, que devient le cycle de l'eau dans la région PACA, d'un point de vue écologique, qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement?
Ben, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que pour le moment, on subit les phénomènes de sécheresse à répétition sur toute la frange côtière, mais que ça remonte aussi sur le domaine alpin, et ça... On y voit peut-être les prémices des changements climatiques, mais en tout cas, il y a des sécheresses qui se répercutent d'une année sur l'autre, ce qui fait une situation qui est assez difficile, en fin de compte, en termes de milieu aquatique. Ça, c'est pour la partie conditions naturelles, climatiques. Restent des problèmes qui sont pour nous des problèmes importants, c'est de voir le développement des besoins en eau domestique, puisque dans notre région, c'est quand même... la partie la plus importante du cycle de l'eau en termes de consommation.
C'est-à-dire ce qui se passe dans les villes?
Ben oui, c'est-à-dire notre urbanisation croissante, nos fortes fréquentations touristiques qui viennent ponctionner les ressources en eau en période estivale, au moment où les milieux aquatiques sont les plus fragiles. Mais en même temps, ces prélèvements se traduisent aussi par des rejets importants dans des milieux fragiles. Et donc, forcément, on est dans des situations qui sont toujours critiques, pas catastrophiques, mais critiques.
Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire pour y remédier?
Eh bien, je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à faire. Moi, j'ai tendance un peu, en ce moment, à me dire que je suis en train de culpabiliser les individus. Par exemple, quand j'apprends aux gosses à se brosser les dents en utilisant un verre d'eau, et que je passe mon temps à voir des ronds-points qui se développent et qui consomment des quantités d'eau phénoménales, et je trouve ça un peu bizarre, quoi. Si on a des comportements individuels sur lesquels il faut agir, et j'en suis persuadé, c'est mon travail au quotidien, je pense que collectivement, il y a une véritable réforme à faire sur notre utilisation de l'eau.
D'accord, donc ça serait dans une éducation populaire de la gestion de l'eau?
Je pense qu'il y a une éducation populaire, on l'a fait, elle est faite par le monde associatif principalement et le monde de l'éducation nationale. Ça, il y a une bonne collaboration et il y a un travail qui est fait. Mais il y a une véritable révolution à faire au niveau de l'usage des collectivités. J'en veux pour preuve une des choses qui me paraît la plus insupportable à l'heure actuelle, c'est les fuites sur les réseaux. À l'heure actuelle, on a des réseaux qui perdent des quantités d'eau scandaleusement importantes. Et bon, personne ne veut mettre le doigt dans cette reconstitution des réseaux qui vieillissent. Pas forcément sur la ville de Marseille quand même, parce qu'il y a quand même ici un effort de connaître le réseau et de l'améliorer, mais d'une manière collective, même la ville de Marseille a trop de gaspillage, quoi.
D'accord. Et là, c'est géré par qui, justement, cette gestion des réparations et des installations?
Eh bien, normalement, c'est à la charge de la collectivité, puisque c'est elle qui est propriétaire des réseaux. Après, tout dépend comment sont réalisés les contrats, quand ces contrats passent au niveau des fermiers, en gros. Hein, on peut avoir simplement la délégation de la vente de l'eau, du traitement de l'eau, etc. Où on peut avoir aussi une partie de gestion du réseau.
Vous parlez de délégation de services publics, en l'occurrence.
Voilà, tout à fait, oui.
D'accord.
Et sinon, le propriétaire du réseau, c'est la collectivité. On est plus à l'heure actuelle à développer des réseaux plutôt qu'à essayer de réparer les réseaux existants. Et bon, là, il y a des fuites qui me paraissent hallucinantes, quoi. À la Maison de l'eau, on dit tout le temps, on est dans une course effrénée pour la recherche de nouvelles ressources. Les premières ressources mobilisables, c'est celles de nos économies. Mais bon, c'est pas forcément très populaire, ce genre de choses. On préfère faire des forages à grand bruit, etc., plutôt que de gérer l'existant.
D'accord. Eh bien, je vous remercie pour votre intervention. C'est un format radio, bien sûr, donc oui. Il faut faire court, mais je pense que vous en avez dit l'essentiel. Merci beaucoup, Georges Olivari.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Tout de suite, on fait une pause musicale avec Guérébou Kounkan. C'est à découvrir. C'était dans le cadre du festival Babelmed, qui était quelque temps à Marseille. Et c'est un titre de circonstance, car ça s'appelle Président. Alors nous voici de retour sur le Petit Alter, l'émission de Attaque Marseille sur Radio Grenouille. Alors nous avons, je pense, en ligne Michel Partage, le célèbre...
Bonjour.
Bonjour Michel Partage. Vous êtes maire de Varages et nous avons autour de nous donc Joël Martine, Jacques Masson d'Attaque Marseille qui vont vous poser des questions. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous disiez en quoi consiste l'appel de Varages que vous avez fait et qui vous a fait connaître, notamment pour le service public de l'eau potable.
L'appel de Varages a été le résultat d'une volonté d'élus et de citoyens pour sensibiliser la population et les élus à un retour en gestion publique de l'eau, partant du principe que l'eau bien commun de l'humanité ne pouvait pas être une marchandise et ne peut toujours pas être une marchandise et ne doit pas être une marchandise et donc à partir de là ne peut pas être gérée par le privé.
D'accord.
Oui, enfin, l'eau qui ne peut pas être une marchandise, je crois qu'il faut préciser pour les auditeurs, l'eau, son traitement a un coût. Qu'elle ne soit pas une marchandise, ça ne veut pas dire qu'on veut que tout le monde l'ait gratuite, mais ça veut dire qu'on est contre que le service de l'eau devienne la propriété, soit approprié par une entreprise qui veut faire du profit avec. Hein. Et donc, les tarifs doivent être, en quelque sorte, des tarifs citoyens, avec y compris, mais... Oui, par exemple, est-ce que chez vous avez eu l'idée de faire les premiers 30 ou 40 litres gratuits, étant donné que ça peut être considéré comme un droit absolument nécessaire pour la santé?
Justement, nous, alors l'eau pour la vie, pas pour les profits. Lorsqu'on dit que l'eau n'est pas une marchandise, vous l'avez bien précisé, l'eau n'est pas une marchandise, ce qui veut dire qu'on ne doit pas faire des profits sur la gestion de l'eau. Le prix, l'eau n'a pas de prix. Quand on dit le prix de l'eau, c'est déjà pour moi une hérésie totale. Du moment où on met, quand les journalistes, quand les communicants mettent cette expression « le prix de l'eau vaut tant », non, l'eau n'a pas de prix, elle sort gratuitement. C'est la gestion qui a un coût, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez raison totalement. Cette gestion a un coût pour mener l'eau de la source qui sort gratuitement jusqu'au robinet et la traiter pour qu'elle soit potable s'il y a des problèmes. Donc c'est vrai que cette gestion a un coût, il faut que ce coût soit le plus modeste possible pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et quand vous parlez des 40 litres d'eau qui sont mis à disposition dans la gestion serait gratuite, nous sur Varages, nous allons l'essayer pour l'année prochaine. On s'en est en train d'y réfléchir. J'étais en Belgique où dans les Flandres, dans toute la partie des Flandres, les premiers 15 mètres cubes, ça représente environ 40 litres d'eau par jour et par personne, les premiers 15 litres d'eau sont totalement... la gestion de ces 15 mètres cubes d'eau est gratuite. Justement pour pouvoir permettre à tout le monde, c'est le minimum, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à cette eau gratuite, si toutefois, bien sûr, malheureusement, les gens n'ont pas de revenus.
C'est-à-dire que 40 litres, c'est le minimum vital, c'est ce que vous avez défini à peu près.
Alors, c'est pas nous, l'appel de Varages ou la commune de Varages ou même France Liberté avec qui nous travaillons, c'est au niveau mondial, c'est reconnu. Le minimum vital est de 40 litres d'eau par jour et par personne, ce qui représente à peu près, je vous dis, 15 mètres cubes par an.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous tracer une photographie? Est-ce que tout le monde a 40 litres d'eau par jour actuellement?
Malheureusement, non. 40 litres d'eau par jour, c'est ce que nous voudrions que les Africains, nos amis africains, puissent avoir, parce qu'ils sont à 10 litres, 15 litres maximum par jour et par personne. En revanche, nous, en France, nous sommes à 160 litres, 200 litres. Aux États-Unis, dans les États-Unis, ils sont à 600 litres. Puis il y a des secteurs, malheureusement, à 700 litres par jour et par personne. Donc, c'est vrai que c'est totalement disparate dans le monde entier. Mais si déjà on obtenait, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on dorme sur un matelas de milliards, ou qu'on soit malheureusement dans la rue, les 40 litres d'eau par jour et par personne doivent être, cette gestion doit être gratuite, et cette eau doit être amenée à chaque personne, gratuitement, pour qu'elle puisse vivre, c'est le droit à l'accès à l'eau potable pour tous.
Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est pour vous le service public de l'eau? Comment vous l'entendez par gestion de l'eau?
La gestion publique de l'eau, c'est une gestion pour moi qui est tenue par une et qui est proposée par une commune et qui doit être absolument communale. C'est-à-dire que cette gestion doit être assurée par la commune qui gère cette eau, même si elle est obligée de faire appel à des sociétés, mais il faut qu'elle le fasse en prestation de service et non pas en affermage. C'est le mot affermage qui met une notion de profit. C'est ce mot affermage qui veut dire délégation de service public, c'est-à-dire je ferme les yeux, je ne regarde plus ce que je fais en tant qu'élu, je délègue à une autre personne le droit de faire ce qu'elle veut, de donner l'accès à l'eau potable, de ne pas donner l'accès à l'eau potable, de pouvoir émettre ou pas émettre. Et ça c'est ce que nous, on refuse totalement.
Oui, alors justement, avant que vous remunicipalisiez l'eau à Varage, c'était une gestion par affermage.
Oui.
Alors, vous avez des difficultés pour repasser à la municipalisation, comment avez-vous fait, quoi ?
Alors, nous avons attendu que l'affermage arrive à son terme. C'est-à-dire qu'il y avait un renouvellement de contrat en 2002, lorsque nous sommes présentés aux élections, donc en 2001, sur ce but précis de retourner, avec comme axe principal de la campagne électorale, ce retour en gestion publique de l'eau. Donc en 2002, nous n'avons pas reconduit le contrat, ce qui fait que nous n'avons pas eu à donner d'indemnité de départ, puisque nous n'avons pas rompu le contrat. Nous avons attendu la fin. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est le but aussi de l'association que nous sommes en train de créer, que nous venons de créer, qui est en train de prendre de l'importance, l'association OEAU, élue association usagée pour une gestion publique de l'eau et de l'assainissement. Parce que nous sommes aperçus à Varage, comme dans d'autres communes qui remunicipalisent, qu'il y avait une pression énorme psychologique. C'est-à-dire que les gens, les sociétés privées, psychologiquement, influe sur la municipalité, sur aussi les citoyens, pour leur expliquer que ça va pas être possible, qu'ils vont pas pouvoir gérer cette eau publiquement, et qu'il faut absolument que ça soit une société privée, parce que eux seuls, la société privée, ont la possibilité d'avoir les ingénieurs et ainsi de suite.
Et pourtant, ils ont constaté une différence de tarif en France entre les DSP et les régies municipales.
Ah oui, minimum 15%. De différence entre un service gestion communale et un service privé, et c'est souvent 25% la moyenne, et on arrive à 40% selon si c'est géré par des syndicats ou des intercommunalités, où là il y a des augmentations de tarifs. Donc c'est énorme la différence. Mais c'est le côté psychologique sur lequel il s'appuie pour nous expliquer que nous ne pouvons pas, nous élus, avoir cette responsabilité qui est trop lourde avec les normes européennes, avec ci, avec ça. Et donc, nous avons quand même fait le pas, mais vraiment avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés psychologiques, des mal au ventre, des soirées tendues, en se disant, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur, est-ce qu'on ne va pas empoisonner tout le monde? Et puis, nous nous sommes aperçus, au bout de 2 ans, à tout moment, on se disait, il va nous arriver quelque chose qu'on n'a pas calculé, il va nous tomber quelque chose sur la tête qui était inattendu, puisqu'on nous avait dit que c'était impossible. Et puis, au bout de 2 ans, on s'est aperçu que c'était que de l'intoxication des multinationales pour garder ce privilège de cette gestion privée de l'eau, pour pouvoir faire des bénéfices, parce que là, ils font énormément de bénéfices. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on se fédère, toutes ces communes qui ont réussi la gestion publique de l'eau. Et il y a des petites communes comme la nôtre, c'est une commune de 1000 habitants, mais il y a Grenoble, qui est quand même une grande agglomération, il y a Neufchâteau dans les Vosges, qui a 8000 habitants, il y a Tournon, 20000 habitants. Donc on s'est dit, mais quelle que soit la taille, on a les mêmes soucis de psychologiques, alors que c'est que de l'intox. Donc nous sommes regroupés, venons de faire une association de communes et d'usagers, donc EAU, élu association usagers, pour dénoncer ce côté psychologique et aider les élus ou les usagers qui veulent revenir à une gestion publique de l'eau ou y rester. Parce qu'il y a ça aussi, les communes qui sont actuellement gérées par le public sont tentées quelquefois par le privé.
Mais de toute façon, enfin, vous parlez de pression psychologique, mais d'un point de vue technique, ça devrait pouvoir se résoudre, puisqu'il est prévu que lorsqu'il y a municipalisation, le personnel qui travaillait pour l'entreprise qui avait la délégation de services publics, ce personnel doit être réembauché. Donc finalement, les techniciens sont les mêmes. Est-ce que vraiment il y a une difficulté à ce niveau-là ?
Alors, dans le monde rural, il y a une difficulté un peu plus importante parce que souvent, quand nous sommes dans des petites communes, c'est un salarié fait plusieurs communes. Ils se répartissent la tâche avec, ils ont un groupe de 4-5 communes. Donc, quand une commune revient comme nous en gestion, il a fallu qu'on embauche deux personnes qui étaient, qu'on a formées. Mais malgré cela, qu'il a fallu les former, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Et dès qu'on on passe un cap de au moins 5000 habitants, vous avez plus ce souci, puisque, pardon, puisque justement, vous reprenez la totalité du personnel. Castres est revenu en gestion publique en 2003, la ville de Castres. Ils ont repris 100% du personnel. Donc, du jour au lendemain, ils ont les mêmes personnes ont fait un travail avec marqué dessus mairie de Castres, au lieu de marquer la société privée dans leur dos, sur leur tunique de travail. Et donc, ils ont repris la totalité du personnel et ils ont réduit la première année de 15% la facture des usagers. En reprenant 15%, alors ça c'est vraiment un exemple concret, et en plus c'est un exemple qui pour moi est encore plus symbolique, puisque Castres est une mairie UMP. Donc c'était pas pour, on peut pas dire que c'est un axe politique de gauche ou quoi que ce soit, là c'est du concret.
Pouvez-vous nous dire combien de communes sont intéressées actuellement par un retour au système de régie?
Alors beaucoup, nous recevons, et surtout depuis l'appel de Varache, ça a déclenché des volontés de dire, mais voyez, regardez, c'est possible, puisqu'on a plusieurs exemples, et depuis que nous avons créé l'association, nous avons énormément de demandes pour essayer de faire en sorte que nous puissions donner, parce que le but de l'association, c'est de fédérer les expériences, mais aussi nous allons nous doter d'experts comptables, de juristes spécialisés dans la délégation dans la gestion publique de l'eau, de techniciens, pour pouvoir les mettre à disposition des communes ou des usagers qui veulent engendrer une transformation. Donc oui, c'est possible, je vous dis, cette mairie, 100% du personnel, dans la même année, en rien changeant, hein, ils ont déjà économisé la facture, ils ont réduit la facture de 15%. Vous vous rendez compte, c'est énorme, la première année.
Oui, mais...
Et je vous dis que c'est en plus une mairie UMP, donc ce n'était pas pour cacher les chiffres, quoi.
Oui, mais les grandes sociétés comme Veolia ou Suez ou Sor disent aussi que grâce à leur puissance, ils disposent de moyens de technique, de moyens de recherche qui garantissent les progrès en matière d'assainissement et tout ça. Est-ce qu'avec votre association Eau, vous allez vous doter ou utiliser des labos, je ne sais pas.
Alors, pour le moment, je ne sais pas si on va aller au niveau, parce que c'est un niveau supérieur, de savoir si on va se doter de labos ou travailler avec des labos pour élaborer des procédés. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que de nombreuses communes ont des délégations, des services publics qu'ils font eux-mêmes, qui sont beaucoup plus importants plus difficiles à gérer que ce service de la gestion de l'eau publique. Je vous dis, c'est de l'éthos. Quand on dit oui, les normes européennes, vous savez, quand vous avez, moi je vois les salariés qui sont à Varage, ce sont des Varageois, donc des gens qui habitent le village. Ils ont une vraie notion du service public de proximité. Et là-dessus, nous, dans le monde rural, plus que dans le monde urbain, nous avons cette difficulté, c'est que nous, le service public, il est de plus en plus abandonné, c'est de plus en plus difficile. Et quand vous avez ce service public, ce véritable service public de proximité qui est totalement mis de côté et abandonné, vous comprenez bien que dans le monde rural, on n'a pas les mêmes facilités que vous. Donc nous, on voyait par exemple la personne, on la voyait très rarement la personne qui s'occupait du service de l'eau.
Michel Partage, est-ce que vous pensez que des grosses communes, des communes comme Marseille, puisque nous y sommes, sont capables de faire un retour en régie? On en parlera tout à l'heure, bien évidemment.
Je voudrais peut-être dire en passant que, par exemple, la ville de Grenoble, hein, qui était en gestion privée et est passée en gestion publique, hein, en régie. Quand ils étaient en gestion privée, ils avaient l'eau la plus chère de France, et maintenant ils ont l'eau la moins chère, hein, quelque chose comme 70 centimes d'euros le mètre cube, hein, alors que des villes telles que Toulon, ça avoisine 1,90 € le mètre cube. Et Nice, c'est un petit peu moins, 1,70 €, mais c'est-à-dire on voit je pense qu'on a quand même l'expérience de Grenoble qui montre que même une grande ville peut arriver à faire à redresser les performances, quoi, en passant en régie municipale.
Grenoble a l'eau la moins chère des communes de plus de 100 000 habitants. Donc c'est sur la tranche des communes de plus de 100 000 habitants, ils ont la gestion de l'eau la moins chère. Donc ça c'est, alors là vous avez raison, 100%. Marseille, est-ce que Marseille peut revenir en gestion publique de l'eau? Mais il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Je pense qu'au plus la commune est importante, au plus on a de facilité, au plus c'est facile de revenir en gestion publique de l'eau, dans la mesure où je vous dis, vous avez déjà tout le personnel sur place qui change juste d'étiquette. C'est-à-dire que d'une société privée, il va passer à une gestion publique de l'eau, donc communale. Donc il va changer juste de nom d'employeur, mais en revanche, c'est surtout sur la facture et par rapport à cette notion d'actionnaire qu'une gestion communale n'a pas. C'est-à-dire que moi, lorsque je remplis un verre dans ma commune ou dans toute commune qui est en gestion publique de l'eau, quand je remplis un verre, il a un coût, cette liquide qui est dans ce verre a un coût pour mener, je vous disais, de l'eau de la source jusqu'au robinet pour remplir ce verre. Il a un coût. Mais quand c'est dans une commune qui est en gestion publique, ce que vous allez payer ne paye que les tuyaux à changer pour essayer d'avoir le moins de fuite possible, il paye le salarié qui va travailler et ça s'arrête là, les investissements et le personnel, c'est tout.
Michel Partage, je suis obligée de vous couper, on a un timing à respecter. Mais par contre, juste une dernière question et je vais vous demander de faire court pour terminer. Je vais un peu faire l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'on va dire gestion publique, peut-être moins de qualité, etc. Qu'est-ce que vous répondriez à ce genre d'arguments qu'emploient certaines multinationales?
La qualité, il faut voir dans les communes où il y a eu un retour en gestion publique, la qualité du service public s'est améliorée très fortement. Seulement une qualité de service public, ça veut dire aussi des élus qui s'engagent, ça veut dire des élus qui suivent les dossiers. Ça veut dire qu'au lieu de déléguer en fermant les yeux à une société privée qui va se gaver pour ses actionnaires et qui va faire un service public normal, parce qu'attention, il n'y a pas que des mauvais points dans les sociétés privées, ils vont avoir un service de qualité. Les communes peuvent faire exactement la même chose si les élus prennent le dossier en main, si les élus veulent s'investir et si les élus veulent faire cette démarche de dire aujourd'hui c'est important donc je suis le dossier. Seulement c'est plus facile de fermer les yeux, de déléguer et de dire c'est pas moi qui suis responsable, ce sont les autres.
Merci Michel Partage de votre intervention de toute façon. Je rappelle que pour plus d'informations sur l'appel de Varage, vous pouvez aller sur le site www.varage.com. Merci Michel Partage. Et puis tout de suite, on fait une pause musicale avec un Marseillais, Moussu T.
J'aimerais avec toi ma brune m'en aller flâner sur les quais. Voir les grands paquebots qui fument, les trésors qu'ils ont débarqués. Balader au bras de ma reine, dans les vieux quartiers circulés. Apprendre les chansons lointaines, des marins et des exilés. Et que le diable m'emporte, voir si ma voix n'est pas morte. J'aimerais pousser les portes du boui-boui de la rue Torte. J'aimerais avec toi ma douce entendre les récits d'ailleurs, les langues qu'ici le vent pousse, pour le pire ou pour le meilleur. Serrer contre toi ma petite, j'aimerais pour chasser l'hiver. Suivre les parfums qui t'invitent de l'autre côté de la mer. Et que le diable m'emporte, voir si ma voix n'est pas morte. J'aimerais pousser les portes du boui-boui de la rue Torte. J'aimerais belle délicate aller m'asseoir sur les rochers, graver sur une pierre plate mon cœur à ton cœur attaché. J'aimerais quand le soleil tombe rêver encore que ma cité et rester la porte du monde, un concentré d'humanité. Et que le diable m'emporte, voir si ma voix n'est pas morte. J'aimerais pousser les portes du boui-boui de l'horizonte. J'aimerais avec toi, ma brune, m'en aller flâner sur les quais.
Nous voici de retour. Nous voici de retour après avoir évoqué Michel Partage sur le Petit Alter, l'émission d'Attaque Marseille, accueillie par Radio Grenouille 88.8. Alors Michel Partage nous l'a dit et répété, donc il est contre les délégations de services publics parce que trop de multinationales ont abusé de la situation. Qu'en est-il, Joël Martine? Pouvez-vous nous brosser un portrait de Suez, notamment puisque ça a été cité, et de Veolia?
En fait, Suez, c'est depuis la fin du 19e siècle, c'est une entreprise, c'est, bon, c'est aussi une banque, hein, Banque de Suez, mais c'est une entreprise qui, en quelque sorte, profite systématiquement de délégations de services publics. Hein, c'est-à-dire, c'est des grands marchés où on peut ponctionner un petit peu de bénéfices à beaucoup de consommateurs. Hein. Il y a un contrat sur par exemple, 20 ans, etc. Et c'est comme ça qu'on peut constituer de fortes réserves. Hein. Et donc, c'est un capitalisme, on peut dire, qui ne s'appuie pas sur tellement l'invention technologique, etc., mais beaucoup sur des rentes de situation. Hein. Alors ça, c'est déjà une chose à dire. Hein. Et c'est pareil pour Veolia.
Alors, hein. J'aime bien brosser des situations un peu exagérées pour que les auditeurs comprennent. C'est un peu illustré. C'est-à-dire que si tout le service de l'eau était aux mains des multinationales, qu'adviendrait-il ?
Ça, c'est ce qu'on a vu justement dans les pays du tiers-monde. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque Suez s'est vu confier la gestion de l'eau à Buenos Aires, hein, donc en Argentine, hein, ils ont trouvé toutes sortes de prétextes pour demander une augmentation des tarifs. Par exemple, lorsque la monnaie argentine était dévaluée par rapport au dollar, comme eux, ils calculent en dollars, ils demandaient que les tarifs augmentent. D'autre part, le gouvernement argentin leur a reproché de ne pas avoir réalisé les investissements d'amélioration du système qui étaient prévus dans le contrat. Hein. Il y a eu la même chose à Manille, aux Philippines. Hein. Alors, il faut voir que dans les pays du Sud, hein, où le pouvoir politique est moins fort face aux multinationales, il n'est déjà pas très fort dans les pays comme en France, hein. Mais dans les pays du Sud, on a vraiment des situations catastrophiques. À Manille, hein, il y a eu des problèmes d'épidémie de choléra dans certains quartiers de grandes villes, parce que Suez n'avait pas fait les travaux pour que la potabilisation de l'eau soit correcte.
Est-ce que ça veut dire que les délégations de services publics, les communes ou les pays n'ont plus de droit de regard sur la gestion de l'eau? Comment ça se passe exactement?
Ce qu'on nous dit toujours, c'est la propagande officielle, c'est de dire « Ah mais non, c'est le partenariat public-privé, il y a des contrats, etc. » Sauf que, alors là, moi je mets au défi les personnes des associations, etc., de par exemple essayer de déchiffrer le compte-rendu annuel de la gestion du service de l'eau. C'est impossible à déchiffrer pour le citoyen normal, hein, parce qu'on va vous donner toute une série de chiffres parce que c'est légal de les donner, mais on ne fait pas de comparatif, etc. Au point que l'an dernier, UFC Que Choisir, hein, la grande association de consommateurs, hein, a voulu faire une étude sur combien coûtait le service de l'eau. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu travailler sur les chiffres donnés par les délégataires, hein, donc les entreprises délégataires. Ils ont procédé en faisant un détour, c'est-à-dire ils ont calculé combien, compte tenu des charges, de l'accessibilité de l'eau, etc., etc., ils ont calculé combien devrait revenir l'eau, hein, et puis ensuite ils ont comparé avec ce qui était facturé. Hein. Et c'est là qu'ils se rendent compte que des fois c'est une fois et demie, deux fois ou plus cher. Hein. Alors, on peut peut-être aussi donner des petits détails sur par où passe, entre guillemets, l'arnaque. Hein. Par exemple, les compagnies vont constituer des fonds de garantie de renouvellement. Hein. C'est-à-dire des fonds, ils font payer l'eau un peu plus cher que ce que coûte le service pour constituer un fonds pour, le cas échéant, faire des réparations, etc. Mais ces fonds, avec ça, on peut spéculer, on peut constituer un trésor de guerre, etc. Hein. Le calcul des prix. Il y a un coefficient qui permet l'augmentation du prix de l'eau en fonction d'une série de choses telles que, par exemple, les salaires dans les travaux publics. On va dire que c'est normal. Hein, plus les salaires sont élevés, plus l'entreprise doit payer cher. Mais pas forcément, Parce que si elle fait des progrès techniques, sa masse salariale va diminuer. Mais pourtant, le coefficient permet d'augmenter le prix de l'eau. Et comme ça, avec toute une série de petits mécanismes qui n'apparaissent pas justement très clairement dans les rapports, eh bien, l'entreprise peut s'enrichir et les élus n'y voient rien. Ou alors ils se laissent avoir, quoi. Ils veulent bien.
D'accord. Alors, il y a des solutions quand même à ces alternatives. On a vu l'appel de Varage, mais aussi, qu'est-ce que c'est que les sages? J'ai entendu parler des sages. Est-ce que c'est une gestion publique de l'eau? Qu'en est-il?
Non, là, on est peut-être sur une autre problématique. C'est-à-dire, sage, ça veut dire schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Hein. C'est plutôt pour une approche en amont, hein, c'est-à-dire à l'échelle de tout un bassin versant. Hein. C'est mettre autour d'une table les différents usagers ou intervenants de l'eau, c'est-à-dire les municipalités, celles qui sont en amont, celles qui sont en aval, les associations de consommateurs, mais elles ont très peu de poids, hein, et puis les agriculteurs, les industriels. Alors c'est vrai que la démarche sage, c'est alors là, du coup, tiens, sur ce point, la France peut jouer un rôle de modèle positif. Hein, alors que par ailleurs, ce qu'on appelle le modèle français de la gestion de l'eau, c'est le soi-disant partenariat public-privé. Donc les sages, c'est plutôt pour gérer en principe, de façon plus écologique, hein, en principe, disons pour mettre les gens autour d'une table, de façon que ce soit pas chacun tire au maximum et à partir du moment où il peut payer, bon bah ça va. Non, mais plutôt qu'on discute pour un partage, un véritable partage de l'eau. Donc l'idée est bonne. Le problème, c'est que si on regarde par exemple dans la région PACA, hein, dès qu'on s'approche, on peut avoir, c'est pas vraiment un sage, hein, c'est comment ça s'appelle ce qu'on a sur la Durance,
syndicat mixte.
Un contrat de rivière.
Voilà, c'est ça. Donc, on peut avoir ça au niveau de la rivière. Ensuite, lorsque l'eau est acheminée, mettons, de la Durance vers la zone de la côte, là, on a une société publique, Société du Canal de Provence, qui est gérée, qui est en commun entre deux départements, la région et la ville de Marseille. Et puis, dès qu'on s'approche de l'endroit où on peut gagner beaucoup d'argent, parce que c'est l'endroit, c'est-à-dire les grandes villes, là où il y a le service avec le compteur d'eau chez l'usager, alors là, comme par hasard, que ce soit à Toulon, à Nice, à Marseille, c'est le privé.
Alors justement, c'est ATEC Marseille, donc on va parler de Marseille. Et la Société des eaux de Marseille, comment procède-t-elle?
Alors justement, beaucoup de gens pensent que la Société des eaux de Marseille, ça veut dire la société de la municipalité. Eh bien non. Hein. On a une situation, alors en plus c'est une situation de monopole. Puisque les deux plus grands acteurs de l'eau en France, qui sont Suez et Veolia, possèdent chacun à presque 50% la Société des eaux de Marseille. Ça veut dire que ça leur a été déjà
reproché. On retrouve tout le monde à ce moment-là.
Ah oui, mais c'est une puissance à Marseille. Hein, parce que Société des eaux de Marseille, mais elle possède aussi toute une série de services publics. Par exemple, l'entreprise Bronzeau qui collecte des ordures, etc. L'entreprise Farina, les sympathiques déboucheurs de canalisation. Bon, mais ça a des noms d'entreprises familiales, mais en fait, c'est au niveau des capitaux, ça fait partie du groupe des eaux de Marseille. Donc on a là une puissance considérable. Hein, et donc déjà savoir que ce n'est pas municipal. Hein. Au niveau du prix de l'eau, alors je vois, hein, disons à Marseille, on a un prix de l'eau qui est moyen. Hein, c'est un peu plus de, on va dire 1,30€, 1,40€ au mètre cube. Mais quand on voit que quand même l'eau arrive très facilement par justement le réseau du canal de Marseille, du canal de Provence, pardon, et puis que c'est une grande ville, donc il y a des économies d'échelle, on pourrait avoir l'eau beaucoup moins chère. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Grenoble, parce que Grenoble, ils sont passés du plus cher au moins cher, justement. Bon, alors, il faut savoir aussi qu'en 2012, le contrat qui lie la ville de Marseille avec la Société des eaux de Marseille va arriver à échéance. Donc la question va venir d'actualité. Hein. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, quel est le positionnement d'ATAC sur ce sujet-là?
Je dois dire qu'on a hésité. On a hésité, parce que, alors là, je m'adresse aux auditeurs marseillais, on s'est dit, ouïouïouï, si c'est pour que l'eau soit gérée à Marseille, comme est gérée la propreté des rues, hein, ou bien la question des déchets, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on s'est dit non, il ne faut pas raisonner comme ça. Hein. Il faut en quelque sorte faire confiance à la démocratie, hein, se dire que non, il faut arrêter de dire que les techniciens vont s'en charger et puis c'est tout. C'est-à-dire que, bah, comme disait Michel Partage tout à l'heure, hein, il faudrait vraiment un effort de la part d'élus pour dire, voilà, hein, il y a des techniciens, ils appartiennent à la Société des eaux de Marseille, ils seront automatiquement, c'est un droit, ils seront réembauchés s'il y a la mise en place d'une régie. Donc, on peut mettre en place une régie. Hein. On peut aussi s'appuyer sur un contrôle par les associations. Hein. C'est-à-dire, on peut imaginer des structures, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, des CLIS, hein, commissions locales d'information et de suivi, hein, avec des associations qui sont compétentes. Hein, bon, l'UFC Que Choisir, ils existent aussi à Marseille, pour ne parler que d'eux, hein, sans faire de publicité. Bon, pour qu'il y ait un suivi. Hein. Et puis, alors, ce à quoi on est attaché aussi, donc je dirais, hein, premièrement, envisager la remunicipalisation. Et pour ça, on a le temps d'en discuter. Hein. C'est pour 2012, hein, mais que vraiment, on voit ce que ça signifie techniquement. Hein. Et puis, il faut savoir que dans la région, justement, comme il y a la Société du Canal de Provence, il y a en quelque sorte, potentiellement et même réellement, il y a un pôle de compétences, de savoir-faire qui est entre les mains du public. Et donc, ce pôle qui est tout à fait reconnu, je veux dire, il n'y a pas seulement... Alors, il faut savoir que ce n'est pas seulement la Société des eaux de Marseille qui, par exemple, fait du conseil à l'étranger, hein, qui va proposer... Bon, là, récemment, ils ont obtenu un marché sur la gestion de la distribution de l'eau à Alger. Hein. Il n'y a pas seulement le privé. Hein. La Société du Canal de Provence a déjà fait, comme ça, des missions de conseil à l'étranger. Donc, je veux dire, on pourrait imaginer la constitution d'un pôle articulé d'un pôle public, hein, entre la Société du Canal de Provence, un certain nombre de régies municipales. Alors il faut savoir qu'il y a des villes qui ont de toute façon refusé le passage au privé. Hein. C'est la ville de Aix, hein, qui est pourtant pas de gauche, hein, la ville de Aix, qui travaille à l'occasion avec certaines entreprises privées, mais uniquement sur des missions techniques très définies. Hein, surtout pas en leur confiant l'ensemble de la gestion. Et puis il y a la ville de Martigues aussi. Hein. Donc je veux dire, il faut envisager une coopération entre les services d'eau publics à l'échelle départementale ou régionale. Et là, je pense qu'on peut s'en sortir. Et là, on verra, je pense, le résultat sur ce qu'on paye, quoi, hein, sur ce que paye le consommateur. Et puis je pense que ça pourrait être aussi l'occasion d'intégrer dans le service de l'eau une attitude plus seulement de consommateur, quoi, hein, je paye donc je peux laisser couler l'eau n'importe comment dans mon jardin, mais un peu toute une éducation en disant attention, l'eau c'est un bien commun, c'est un bien qu'on partage avec, je vais dire avec les grenouilles puisqu'on est à Radio Grenouille, mais qu'on partage avec toutes sortes d'espèces vivantes et qu'on doit gérer sans se priver, il ne s'agit pas de se priver, mais qu'on doit gérer de façon économe, écologique. Bon, voilà, on peut imaginer, voilà, nous on voudrait bien que le débat dans la ville de Marseille prenne un peu ce genre d'allure, quoi. Pas toujours des trucs clientélaires, je te donne ci, je te donne ça. Non, qu'on voit ce qu'on fait ensemble, les citoyens et les élus.
D'accord. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux citoyens lambda de Marseille qui voudraient justement s'investir dans cette remunicipalisation de l'eau ?
Bah déjà, peut-être d'en parler dans les associations, dans les CIQ, hein, de voir... faire le compte un peu, demander par exemple à avoir un, quand on est en copropriété, à avoir le détail des consommations d'eau, hein. Je dirais le seul fait d'en parler déjà.
Merci Joël. Alors tout de suite, pour finir, on va finir en musique. Je rappelle quand même que vous pouvez trouver tout le dossier de l'eau sur le site d'Attaque Marseille. Vous retrouverez Le Petit Alter, une émission mensuelle proposée par Attaque Marseille, tous les troisièmes dimanches du mois de 11h à midi sur Radio Grenouille 88.8. Et le prochain thème évoqué sera le transport. Les transports, il y a beaucoup à dire. À très bientôt.
نكروا كلام السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد عالسمعوا